Bon matin. Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans Philippiens 1, versets 9 à 11. J'aimerais commencer ce matin avec une des choses qu'un homme que je respecte énormément, un homme de Dieu, est venu nous dire au face-à-face il y a quelques semaines. C'est la prière de Paul aux Philippiens. Cette prière qui vient puis qui dit justement à Paul, puis quand cette personne-là est venue, il est venu nous dire, c'est la même prière que je fais pour vous. Puis je vais la lire. Versets 9 à 11. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Pour le discernement. Quand j'ai entendu cette prière-là, j'ai tout de suite pensé à la sagesse. La sagesse, l'importance de la sagesse. C'est incroyable, j'étais encore jeune, mais de plus en plus, plus je grandis, je me rends compte de cette importance-là. Je veux dire, je suis dans un point de ma vie où il faut que je prenne tellement de décisions. J'ai un point dans ma vie où à quelle école je vais? Ou dans quelle ville je vais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que ce jour-ci, je vais lire? Est-ce que ce jour-ci, je vais décider d'aller m'entraîner? Est-ce qu'on a toujours, toujours, toujours des décisions à prendre dans nos vies? Je suis convaincu que vous en avez une panoplie d'exemples, vous aussi. Mais de prendre la bonne décision. De plus en plus, je me rends compte aussi que la sagesse, c'est plus que de savoir c'est quoi la bonne décision. La sagesse, c'est aussi de prendre la bonne décision. Parce que des fois, on sait que c'est peut-être mieux de ne pas aller voir ça. On a la décision à prendre de dire, est-ce que je décide d'aller voir ou de ne pas voir? Est-ce que je décide, en gros, de pécher ou de ne pas pécher? On a toujours ce choix-là. La sagesse, ça règne là-dedans. Quand on pense à la sagesse, la première personne à qui on pense, c'est Salomon. Mais la première chose que Salomon a fait, c'est demander la sagesse. Il savait que pour régner en tant que roi, il allait avoir besoin de cette sagesse-là. Il allait avoir besoin de tout ce qui vient de Dieu, d'avoir le discernement de comment bien diriger son peuple, comment bien diriger le peuple de Dieu. Puis le premier acte de sagesse que Salomon a fait, c'est justement de la demander. Ce matin, c'est un spécial face-à-face. Pas que je suis spécial, peut-être un peu, mais en tout cas, peu importe. Le monde qui me connaît peut peut-être dire que je suis un peu spécial, mais c'est un spécial face-à-face parce que c'est justement les jeunes du face-à-face qui font la musique. D'ailleurs, je les remercie énormément pour avoir fait la musique. Mais c'est un spécial face-à-face et c'est la raison pourquoi j'ai décidé de prendre la sagesse. Parce que peu importe, on est jeune. La chose dont on a le plus besoin, c'est d'avoir la sagesse. Avoir une sagesse divine, de justement dans toutes les décisions, tous les choix qu'on a à prendre, on a besoin de cette sagesse-là. Que ce soit parce qu'il ne faut pas oublier que le face-à-face, comme d'ailleurs U-Turn, comme le groupe La Voix, comme le groupe 25 ans et plus, c'est la relève. Dans le futur, ça va être nous qui va être là. Il va y avoir parmi nous autres, parmi nos groupes, je ne sais pas, il peut y avoir des anciens, il peut y avoir des diacres, il peut y avoir des sandmen, il peut y avoir des professeurs de l'école du dimanche. Il peut y avoir plein de personnes. Puis dans toutes ces choses-là, s'il y a une chose qu'on va avoir besoin, c'est d'avoir de la sagesse et de grandir dans cette sagesse-là. C'est une des choses les plus importantes. Il faut voir comment ça marche. La première chose qu'il faut savoir quand on explore le thème de la sagesse, c'est qu'est-ce que la sagesse? Premièrement, le Larousse décrit la sagesse comme ça. Ça dit « qualité de quelqu'un qui fait preuve de jugement droit, sûr, averti dans ses décisions, dans ses actions. » Dans le fond, la sagesse, c'est un équilibre. C'est pas juste des actions, c'est pas juste des pensées. Il y a deux parties à ça. Il y a toujours la partie de réflexion, la partie de discernement, de savoir qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon. Puis, Pour ça, la première chose, c'est d'ailleurs, on peut le diviser un peu. C'est comme ça que je l'ai divisé pour une latitude de la sagesse, parce que la sagesse, c'est beaucoup plus que, je sais pas, un enfant sage, c'est plus que la description du Père Noël. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est plus que juste, ah, il fait rien de mal. C'est plus que ça. Vraiment, la sagesse, c'est le discernement et la réflexion. Proverbe 8:12 dit, « Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. » Tout n'est pas blanc ou noir. On sait, et vous le savez autant que moi, que c'est pas toujours évident de savoir quoi faire. On est dans une situation où on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de bon choix. On est dans une situation où, je sais pas, on dirait que c'est tous des bons choix, je sais pas lequel que je devrais prendre. Mais tout n'est pas blanc ou noir. Même si on sait très bien que le péché, ça va toujours être noir. Mais tout n'est pas blanc ou noir. Puis il faut le discernement. Il faut savoir bien discerner les choses. Il faut avoir de la sagesse là-dedans. Mais aussi, les décisions et les actions. On a beau savoir, on a beau discerner qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Mais maintenant, il faut le faire. J'aimerais... On peut lire le verset, c'est dit « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne action, par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. » MacArthur, dans une de ses prédications, fait une différence entre le mot grec et le mot hébreu. J'aime particulièrement la description du mot hébreu. Il dit « que dans le fond, le mot hébreu veut dire, de la sagesse veut dire avoir du talent dans l'art de vivre. C'est quelque chose qui est, c'est un peu un mode de vie, c'est un peu un état de vie, c'est une façon d'être la sagesse. On dit pas, on peut pas prendre la sagesse puis l'écarter du sage. La sagesse va avec le sage. Le sage peut pas vivre sans la sagesse, sinon il l'est plus. C'est quelque chose qui est dans toutes les décisions, dans tous les pas de notre vie, c'est quelque chose qu'il faut avoir, faut posséder cette sagesse-là si on veut vraiment être sage. C'est pas une chose que dans une décision, ah là je décide d'être sage, dans l'autre je décide de pas être sage. La sagesse est là partout. Un état de vie. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on possédera jamais. Je sais pas, peut-être parmi vous, il y a des gens qui croient posséder la sagesse parfaite. Mais désolé de vous le dire, mais je suis convaincu que vous êtes dans l'erreur. Puis d'ailleurs, la sagesse qu'on avait hier, Piper nous dit, nous ne devons jamais nous contenter de la sagesse acquise hier. Puis je trouvais ça un très bon point. Parce que c'est vrai que des fois, on est porté à dire, là, je pense que je suis pas pire. Là. Je pense que je suis quand même sage, ça va bien, j'ai une bonne sagesse. Mais non, la sagesse qu'on avait hier, on devrait en vouloir plus aujourd'hui. On voudrait toujours aller vers plus de sagesse. On ne devrait pas se contenter de la sagesse qu'on avait hier, de quand on était jeune. Ah, quand j'avais 20 ans, j'étais sage. Mais on devrait justement toujours chercher à grandir dans la sagesse. Une chose qui est très intéressante, c'est la sagesse se retrouve dans tous les domaines. Le verset qui est là, c'est un verset qui parle du tabernacle. Quand qu'on construit le tabernacle, justement, Dieu a dit qu'il a donné la sagesse pour savoir et pour faire. Mais la sagesse, c'est partout. La sagesse, c'est dans nos emplois. La sagesse, c'est simplement savoir comment construire de nos mains. Des fois, c'est une des choses que je pense qu'on met un peu de côté, des fois, à l'Église. Il y a des gens qui ont une sagesse pour construire des choses matérielles. Je pense, je regarde qu'est-ce qui s'est fait ici, on regarde l'amélioration, les constructions qui ont été faites ici. Il faut une grande sagesse pour ça. Les dons, dans un certain sens, c'est de la sagesse. Dieu nous donne cette sagesse-là. Mais cette sagesse-là de faire. Mais aussi, ça va dans nos emplois. Ça va plus loin que juste faire notre propre travail. Ça va savoir comment est-ce qu'on devrait témoigner en tant que chrétien. Est-ce que, parce qu'on sait tous qu'il y a un moment pour parler, c'est important de témoigner notre foi. C'est important que les gens sachent qu'on est chrétien. Mais il y a un moment aussi pour le montrer dans nos actions. On peut partager sa gloire, mais aussi il faut la démontrer à travers ce qu'on fait. Montrer qu'est-ce qu'il fait en nous. Montrer les changements. Je peux vous dire que justement, dans tous les témoignages qu'on a, c'est une des choses les plus importantes d'avoir de la sagesse. On va passer au prochain point. Il dit, pourquoi vouloir la sagesse? C'est une chose de savoir c'est quoi, mais pourquoi est-ce qu'on voudrait avoir la sagesse? Mais la première chose, c'est pour ses bienfaits, ce que ça peut nous apporter. Puis je vais prendre trois versets, juste pour amener un certain point de la sagesse. Vous allez voir avec moi. Proverbe 9, 12 dit, « Si tu es sage, tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu en porteras seul la peine. » Le sage ici est en opposition avec le moqueur. Un aspect très intéressant, c'est que le moqueur se retrouve seul. Tandis que le sage, tout le monde veut d'un ami sage. Tout le monde veut d'un bon conseiller. Tout le monde veut de quelqu'un qui va être là pour l'aider quand il va avoir des problèmes. En plus, le sage, il sait aussi s'entourer de bons amis. Le sage sait que les gens avec qui on se tient ont une importance capitale. Parce que si on se tient simplement avec des gens qui se moquent de Dieu, des gens qui... ça va finir par nous détruire aussi. Le sage le sait, puis s'entoure des bonnes personnes. Donc le sage, il n'est pas seul. Un autre point, c'est un verset très intéressant, ça. C'est Job 22, 2. La raison pourquoi c'est un verset intéressant, c'est parce que c'est Eliphaz qui parle. Eliphaz, qui est un ami de Job, qui est une des personnes peut-être les moins sages dans le livre. On regarde qu'est-ce qu'ils vont dire. Ils vont dire des choses, des fois, qui n'ont pas de sens. Mais malgré tout ça, il y a une chose très importante qu'Eliphaz va dire. Ça dit, « Un homme peut-il être utile à Dieu? Non. » Le sage n'est utile qu'à lui-même. Ces versets-là amènent l'équilibre. Parce que des fois, on a tendance à penser que notre sagesse, c'est le plus important. Que j'ai tellement de sagesse, puis par notre sagesse, on va aider Dieu. Je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais des fois, moi, je le suis un peu. Des fois, on a l'impression que on va montrer aux autres qu'est-ce qui se passe, on va montrer c'est quoi la sagesse de Dieu par mes propres actions. Puis on va comme ça aider Dieu parce que là, Dieu a besoin d'aide, mais c'est faux. Je pense simplement à dire, des fois, on veut défendre notre foi, puis c'est comme si on veut défendre Dieu. Je me souviendrai toujours de ce qu'une personne que je respecte beaucoup avait dit. Cette personne a dit, Dieu est assez grand pour se défendre tout seul. C'est vrai, Dieu est assez grand. Pourquoi est-ce qu'on veut des fois nous-mêmes apporter cette sagesse-là? Pourquoi des fois est-ce qu'on veut... justement, enrichir Dieu. On va l'aider. Là. Dieu a besoin de nous, on va l'aider. On va se mettre à soir, là, Dieu, je te dis tout de suite, on va t'en apprendre la sagesse, mais c'est ridicule. C'est absurde. La sagesse, le plus grand bénéficiaire, c'est nous-mêmes, de cette sagesse-là. Il ne faut jamais l'oublier que c'est pas pour impressionner Dieu. C'est pas pour aider Dieu. Dieu est le plus sage, puis Dieu va toujours l'être. Proverbe 24, 14 dit, « De même, connais la sagesse pour ton âme. Si tu la trouves, il y a un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. » La sagesse, c'est un espoir. Un espoir parce que, justement, que ce soit même à travers nos décisions, c'est un espoir que la sagesse va nous amener à bon port. Je crois que la plus grande des sagesses, c'est de croire en Dieu, même si c'est un autre point qu'on va revenir, mais la plus grande des sagesses, c'est justement de se diriger vers le paradis. Parce que le paradis, c'est notre espoir. Puis justement, s'y diriger, il n'y a pas plus grande sagesse que ça. Mais aussi, non seulement c'est pour notre bien, on parlait de notre avenir, de ce qu'on va devenir, que ce soit plus grand ou tout ça, mais c'est aussi le bienfait des proches. Oups, je vais revenir. C'est le verset Proverbe 23, 24 nous parle de la joie d'un père lorsqu'il donne naissance à un sage. Puis j'aimerais ça pouvoir vous dire à quel point je comprends ce verset-là, mais je suis convaincu que dans la salle, il y a des gens qui comprennent encore mieux ce verset-là. quand vous voyez votre fils qui prend des sages décisions, qui est à la bonne place, qui fait des choses, je pense qu'il n'y a pas plus grande joie pour quelqu'un de voir que ses enfants vont bien. Que ce soit un fils, une fille, que ce soit un père, une mère, que ce soit un ami. Les gens proches, quand ils voient que quelqu'un qu'on aime va bien, ça nous fait du bien aussi. Les bénédictions sont contagieuses. Aussi, des fois, les gens alentour de nous vont voir qu'on est sage, puis par notre sagesse, ils vont pouvoir prendre des conseils et nous aider. La sagesse est contagieuse. Et en plus, la sagesse est beaucoup plus permanente que les richesses. Un père, ça va lui faire du bien quand il va voir que son fils est prospère. Et de savoir que son fils a de la sagesse, ça veut dire que même s'il perd ses richesses, parce que les richesses, on peut les perdre à tout instant, si le fils continue à garder cette sagesse-là, le père qui aime son fils va être dans l'allégresse. Il ne pourra pas être plus content de voir son fils qui va bien. Donc, les bienfaits sont contagieux de la sagesse. Mais aussi, pourquoi vouloir la sagesse? Mais pour prendre les bonnes décisions. J'en ai un peu parlé un peu plus tôt. Mais ici, on va voir des exemples concrets de dans quoi on peut prendre des bonnes décisions. Premièrement, l'argent. Gérer ses biens. C'est un sujet qui est un peu touché tout le temps, de dire « Ah, l'argent, qu'est-ce qu'on fait de notre argent? » Mais puis je veux dire, la Bible nous dit qu'il y a un danger dans l'amour de l'argent. La Bible dit pas qu'il y a un danger dans l'argent même, mais dans l'amour de l'argent. D'ailleurs, c'est pas sage, si vous aimez tellement cet argent-là que c'est la seule chose que vous voulez garder, c'est pas bien. Puis on peut se poser, il faut avoir de la sagesse aussi à savoir comment l'acquérir, comment le multiplier, comment l'utiliser. Est-ce qu'on essaie de l'acquérir à tout prix? Non, ça serait un peu fou. Parce qu'on ne peut pas brimer des choses simplement pour avoir de l'argent. La multiplier, est-ce qu'on la multiplie aux dépens des gens? Non, il y a une façon de la multiplier. Mais en même temps, c'est important de la multiplier parce que si on pense à la parabole des talents qui fait fructifier cet argent-là, comment l'utiliser? Je pense que la meilleure façon de l'utiliser, c'est d'investir. D'investir dans les choses de Dieu. Investir dans quelque chose qui ne se perdra pas. Je pense que tout chrétien sait pertinemment qu'être généreux, c'est important. Est-ce que c'est important? Oui. Tout le monde le dit. Mais encore là, il faut de la sagesse à savoir où être généreux, où donner son argent. Des fois, il y a un moment, il y a un temps. Mais il faut prendre la bonne décision. Il faut le faire. Il y a un itinérant qui est dans la rue. Est-ce que je donne l'argent? Est-ce que je vais y acheter un café? Ça peut être des décisions toujours comme ça. On est toujours pris avec ces décisions-là qu'il faut de la sagesse. C'est pour ça que c'est important. Et puis quand? Je pense aussi, c'est un point, je pense aussi que c'est important de donner à notre Église. Puis, la raison, c'est que donner à l'Église, je pense que c'est de croire en elle. Je pense pas que c'est la seule place qu'on devrait donner. Mais si on ne croit pas en notre Église, je pense qu'il y a un problème. Il ne faut jamais oublier que tout l'argent qu'on a, c'est juste un emprunt à Dieu. Je veux dire, oui, on travaille pour ça, mais c'est qui donne la force de travailler? Il y a des gens qui travaillent, puis tout d'un coup, ils peuvent être blessés. Ils perdent leur emploi. C'est la preuve que Dieu est toujours en contrôle, puis tout cet argent-là, c'est l'argent de Dieu. Quand on donne cet argent-là, je me souviendrai toujours de ce qu'un de nos professeurs NBBI avait dit. C'est pas combien d'argent je donne, c'est combien d'argent je garde pour moi. Et c'est un peu ça des fois. Et encore là, c'est pas à moi. Puis, tu sais, je veux dire, dans un certain sens, je m'en fous un peu de combien vous donnez, qu'est-ce que vous donnez. Mais le point, c'est le plus perdant dans la personne qui garde, qui est avare, c'est elle-même. C'est la pire personne là-dedans. La sagesse, comment gérer son argent? Mais aussi savoir diriger. Le verset qui est là, c'est justement le verset de Salomon qui demande à Dieu la sagesse de savoir diriger. Dans la direction, ça prend énormément de sagesse. Il y a des décisions pas faciles à prendre. Il y a des décisions où on ne sait pas quoi faire. il faut de la sagesse. Il faut de la sagesse aussi des fois pour demander de l'aide à diriger. Parce que seul, on n'a pas les solutions à tout. La sagesse, puis diriger une église, c'est la même chose. Diriger une église, diriger un groupe de jeunes. Peu importe tout ce qu'on dirige, il faut énormément de sagesse à savoir dans quelle direction, quelle poche prendre. Je peux... des fois, on a l'impression, quand on regarde les dirigeants de l'église, que c'est un poste facile à prendre, que tout le monde un peu peut le faire, mais c'est faux. C'est énormément de pression. Puis, je veux dire, j'ai vécu un tout petit peu qu'est-ce qui était dirigé quand j'étais en Abitibi. Je dirigeais un groupe de jeunes, puis des fois, c'est déprimant parce que tu as l'impression que tout va mal alentour de nous. Tu as l'impression que, bon, t'es là pour encourager les gens, mais faut que tu t'encourages toi-même parce que, tu vois, tel jeune, il est là, mais finalement, il a recommencé, il vient plus à l'église, il a recommencé à boire. OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais on prie, c'est dans les mains du Seigneur. Des fois, c'est jamais facile. Il faut de la sagesse. Troisième point, il faut se détourner du mal. C'est en parlant à un de mes amis que j'ai changé ces deux points-là. Parce que mon ami m'a donné l'exemple, il a dit, c'est plus dur de se détourner soi-même du mal que de diriger. J'étais pas si sûr que ça, mais il m'a donné l'exemple de Salomon. Salomon a continué à régner dans la paix, a continué à régner, à avoir un règne où que le peuple d'Israël allait très bien. Mais sa vie à lui, de quoi elle avait l'air? Comment est-ce que Salomon vivait? Il y avait plein de femmes, il a fini par adorer plein de dieux. Même si le peuple est prospère, si la personne même qui dirige, même dans une place de direction, est dans le péché, il y a un problème. C'est intéressant parce que la sagesse comparée à la loi, c'est deux choses complètement différentes. La loi va dire simplement, OK, ne tue pas. Va dire des choses de quoi faire. Ne mens pas. Tandis que la sagesse va dire, sois travaillant. Éloigne-toi du mal. Ça va donner des lignes directrices, mais sans plus. La sagesse, c'est de savoir que dans quelle direction utiliser ces principes-là qui sont bibliques, dans quelle situation je dois les utiliser. C'est une grande sagesse. C'est une grande sagesse de s'éloigner du péché aussi. C'est une grande sagesse que de dire, j'ai le goût de le faire. J'ai le goût de le faire, j'ai le goût de tout abandonner, j'ai le goût de partir, de pécher, peu importe. Mais la sagesse, c'est de dire non. La sagesse, c'est de faire la volonté de Dieu. S'éloigner du péché, c'est une grande sagesse. Maintenant, comment avoir la sagesse? On a beau savoir l'utilité, on a beau savoir pourquoi, c'est quoi? Mais comment est-ce qu'on doit avoir la sagesse? La première chose, c'est ne pas se fier à nous-mêmes. Il faut voir que ça ne vient pas de nous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire, « Ah, mon réservoir d'essence, il est plein. Je vais aller remplir mon réservoir d'essence. » Non, je ne pense pas. Si on a vraiment l'impression que ce réservoir-là, il est plein, on n'ira jamais le remplir. Mais c'est la même chose pour Dieu. Si on a l'impression qu'on est plein de sagesse, on n'ira jamais voir Dieu pour le voir. C'est un point simple, mais il faut y revenir. Deuxièmement, la meilleure place pour trouver la sagesse, c'est dans sa parole. Psaume 19:7 dit, « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. » Rend sage l'ignorant. Même la personne la plus stupide. Ben, Colin, la Bible va le rendre sage. Mais dans ma vie, je peux témoigner une chose. Je peux dire que la sagesse de la Bible, à chaque fois, je ne l'ai pas écoutée. Soit sur un pourcentage de 100%, ce qui est quand même pas mal. 100%, c'est bien. À chaque fois que je ne l'ai pas écouté, j'ai toujours regretté. À chaque fois où j'ai décidé justement ces grands principes-là, les choses que la Bible nous dit de faire, puis j'ai dit « Ah non, moi je pense que je suis plus sage que ça. » À chaque fois, je me suis toujours planté. Parce que des fois, la parole, ça nous déplaît. Tends la joue à celui qui te frappe. Tends, tu sais, quelqu'un te frappe sur une joue, tu tends l'autre joue. Hey, c'est plaisant, ça. C'est quelque chose qui... J'ai le goût, un matin, de me faire frapper, tu sais. Mais ça déplaît aux gens. Ça nous déplaît à nous. Pourtant, c'est la meilleure chose pour nous. C'est ce qui va nous faire le plus de bien. C'est simplement d'écouter cette parole-là. D'écouter la sagesse de la parole. Des fois, je me suis demandé si un être humain avait la sagesse que la Bible a. Tu sais, je veux dire, quand à 100% des fois, hein, t'as raison, c'est quand même bien. Je me dis, cette personne-là, je me dis, tout le monde irait la voir, mais en même temps, je crois pas, parce que quand on regarde ça, si ça nous déplaît, si la personne nous dit « Ah, ben fais pas ci », puis je vais « Bon, mais là, que je vais t'écouter sur le reste, là, quand tu me dis quelque chose qui me fait plaisir, mais quand c'est quelque chose qui me fait pas plaisir, par exemple, là, je suis pas sûr que c'est tant de la sagesse, puis pourtant, ça reste toujours de la sagesse, ça va toujours être de la sagesse. La Bible, si c'est la vérité absolue, même si on peut pas toute la comprendre, faut l'écouter. Pourquoi on n'écouterait pas la vérité absolue? Mais cette parole-là nous déplaît. Une chose, c'est que à travers ça, à travers tout, à travers la lecture, une chose qu'il faut continuellement faire, parce que même dans la situation de tous les jours, il faut savoir appliquer cette parole-là. Il faut savoir prendre la bonne décision, comme je disais. Puis une chose qu'il faut faire, c'est la demander à Dieu. La demander à Dieu. Puis souvent, Dieu donne à travers les autres. Il y a des gens qui vont avoir une sagesse, qui vont pouvoir nous aider. La sagesse, c'est d'aller les voir puis d'aller leur demander. Mais cette sagesse-là vient de Dieu avant tout. Puis des fois, je suis convaincu qu'il donne à travers des situations spéciales. Je pense à Jacques, d'ailleurs, j'ai le verset, ça dit Jacques 1:5, qui est dans un contexte de persécution. Les gens sont persécutés. Ça dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donnera à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Dans des moments, je suis convaincu que dans des circonstances spéciales, on a besoin de faire un choix. Là, des fois, Dieu nous donne cette sagesse-là, puis on prend la bonne décision. Mais c'est Dieu qui la donne, cette sagesse-là. Que ce soit à travers les hommes, que ce soit à travers simplement des fois qu'il nous met cette pensée-là dans notre cœur, la chose qu'on sait qui est bonne, c'est Dieu qui la donne. Une chose que même si on la demande, il faut quand même écouter. Parce que si on demande quelque chose, des fois on fait « Ah, s'il te plaît, je peux-tu avoir ça? » Puis ouais, on s'en va. C'est facile, mais d'écouter. Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans Proverbe 1, verset 2 à 5. Ça dit, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute, il augmentera son savoir. Proverbe, c'est le livre de la sagesse. La première chose que Proverbe dit, c'est d'écouter. D'écouter les gens. Je pense qu'un très bon exemple d'écoute, c'est Moïse. Moïse qui, à un moment donné, son beau-père est allé le voir, puis il a dit, ah, ça serait bon que tu diriges comme ça. Il a donné des conseils. Moïse aurait pu bien dire, ah, ben, tu sais, Jethro, t'es juste, t'es dans le fond, t'es même pas un Israélite. T'es un homme de Dieu, je pense pas. Et ben, pourquoi je t'écouterais? Moi, j'ai vu Dieu, je suis allé sur une montagne sainte, j'ai vu Dieu en face, en fait, j'ai vu le dos. Mais non, il y a eu la sagesse d'écouter. Il écoutait ses conseils. Il n'était peut-être même pas sauvé, mais il a écouté les conseils. Puis des fois, à travers les gens, même si ce n'est pas des chrétiens, il y a des gens qui peuvent nous aider énormément, avoir des bons conseils. ils peuvent donner des bons conseils sur quoi faire dans telle situation. Mais il faut savoir aussi quand les écouter, parce que c'est pas toujours sage qu'est-ce qu'ils vont dire. Et aussi, c'est pas juste eux, hein? Entre nous aussi, on est là pour s'aider. On devrait s'écouter. Des fois, au lieu d'argumenter, de dire « Ah non, toi, t'as pas raison », on devrait simplement s'écouter. Parce que quand on écoute vraiment quelqu'un, la discussion est tellement différente. Je me souviendrai toujours que des fois, à un moment donné, je témoignais à un de mes amis, puis je finissais par témoigner, ça vire en débat, puis la seule chose que tu penses, là, c'est « Attends un peu, là, c'est quoi mon prochain argument? Là, je vais arriver, je vais dire ça, puis là, la personne parle, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'elle dit. » Puis là, après, je sors son de l'argument, puis même la personne a beau avoir dit ça ou peu importe, ça ne change rien parce que je ne l'écoutais pas. Mais la sagesse, c'est d'écouter. Écouter et de savoir quand écouter, qui écouter. Encore là, ça revient à dire qu'il faut s'entourer de bonnes personnes autour de nous. Les limites de la sagesse. Je pense que, pour venir à mon exemple de Salomon, qui était l'homme le plus sage au monde, du temps, peut-être même de toutes les époques, cet homme-là a quand même fait les pires niaiseries. Il s'est éloigné de Dieu. Il y a eu 1000 femmes, plus des concubines, peu importe. Mais il s'est éloigné de Dieu. Et par ça, je pense qu'on peut voir que la sagesse qui est humaine a ses limites. Première chose, la sagesse peut être corrompu. Deutéronome 16-19 dit « Les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. » Tout le monde est contre les pots de vin, je suis convaincu. Mais c'est différent d'être dans la situation où on a besoin d'argent ou dans une situation où que cette chose-là qui nous donne « crime, c'est vrai que j'en aurais besoin. » Mais la sagesse, c'est quand même de refuser. Parce que des fois, c'est tentant, mais c'est de dire non quand même, la bonne réponse. C'est facile de se faire manipuler par ça. C'est facile. La sagesse peut s'enorgueillir, même si ça devient plus de la vraie sagesse si c'est enorgueillé. Aucun homme n'est infaillible. Il n'y a personne ici qui a une sagesse infaillible, que cette sagesse-là, peu importe ce qui arrive, tout va bien aller, je ne vais jamais la perdre. Puis finalement, ça finit par dire « Ah, moi j'ai de la sagesse. » Puis là, on voit quelqu'un qui tombe dans le péché, puis on dit « Lui, il n'a pas compris la sagesse, moi j'ai compris. » On dit « Ah, tu vois, toi tu as fait ça, moi je ne le ferai jamais. Je ne le ferai jamais. » Combien de fois on regarde quelqu'un qui vient de tomber, puis on fait ça? Finalement, on finit juste par s'enorgueillir. On se croit plus sage que l'autre. On se croit plus sage. On croit que, nous autres, on a compris quelque chose. Mais c'est la pire chose parce que je crois définitivement que l'orgueil, c'est le tremplin de la chute. C'est la fin de la sagesse. C'est le commencement de la folie. L'orgueil, ça va toujours nous faire tomber. Si vous voulez perdre votre sagesse ce matin, soyez orgueilleux. Je vous encourage. Non. Ça va toujours nous faire tomber, l'orgueil. La sagesse du monde ne donnera rien au final. C'est jamais la sagesse du monde qui va impressionner Dieu. Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans 1 Corinthiens 3, 18 à 21a. Ça dit que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes. » Frédéric Godet, sur son commentaire sur 1 Corinthiens, dit « Si un individu quelconque prétend au rôle de sage, à la réputation d'un profond penseur, qu'il se dise bien qu'il ne parviendra à la vraie sagesse qu'après avoir passé par une crise, ou périra cette sagesse propre dont il s'est gonflé, et à la suite de laquelle seulement il recevra celle d'en haut. La seule sagesse qui va mener vers Dieu, c'est celle qui vient de Dieu. » Godet dit encore, « Si tu as la prétention d'être un sage dans l'Église, bien. Mais dans ce cas, commence par humilier ta raison en acceptant la folie de la croix et par devenir ainsi fou aux yeux des sages du siècle. Alors tu pourras devenir réellement dans l'Église l'organe de la sagesse divine. » Croire en la croix. On parle de sagesse, mais est-ce qu'il y a une plus grande folie que de croire dans un homme qui est mort il y a 2000 ans pour nous? Oui, c'est une folie aux yeux de l'humanité, mais pourtant, c'est ça, c'est par là que commence la plus grande des sagesses. C'est par un homme qui était 100% homme, 100% Dieu, qu'on en parlait ce matin encore une fois, qui est venu sur cette terre mourir pour nous. Cette sagesse-là montre que la sagesse ne peut pas venir de nous, que par nous, on ne pourra jamais atteindre le ciel, parce que si on est imparfait, frères et sœurs, et on est imparfait, on ne se rendra jamais à Dieu par nos propres moyens. Il a fallu que Dieu lui-même vienne sur cette terre pour qu'on croie. Et si on oublie ça, je pense qu'on perd toute sagesse, parce que mon dernier point, le point central de la sagesse, c'est quoi? Mais premièrement, car Dieu est sage. Rien n'est sage en face de lui. Proverbe 21:30 dit, « Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de l'Éternel. C'est Dieu le plus sage. » Donc, la clé, c'est la crainte de l'Éternel. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Nous dit Proverbe 9:10, puis il y en a plusieurs qui le disent aussi dans... Si on oublie cette chose-là, si on oublie la crainte de l'Éternel, on n'aura jamais la vraie sagesse. Je ne sais pas, des fois on se demande un peu c'est quoi la crainte de l'Éternel. Mais une chose est sûre, c'est que tous ceux qui ont vu l'Éternel, qui ont vu Dieu, il n'y en a pas un qui est resté debout, sont tous tombés à terre. Sont tous tombés sur leur face en se cachant. C'est la première chose, donc, de voir... Je pense que c'est le premier point de la crainte de l'Éternel, c'est de voir qui est Dieu. Une fois qu'on peut voir qui est Dieu, à quel point il est fort, à quel point il est sage, à quel point il peut tout faire, il a le droit de tout faire. Je pense qu'on devrait avoir une certaine crainte, c'est sûr. Mais ça vaut plus que là. J'aime souvent l'image du joueur de football. J'ai joué au football, on aime ça, le football. Mais le... Dans ton équipe, imaginez que dans notre équipe, il y a quelqu'un, il y a un joueur de football, 7 pieds, 400 livres de muscles, une armoire à glace. Il a beau être dans notre équipe, on se dit, s'il se fâche, là, peu importe, là, il y a toujours un côté de nous qui dit, « Ah, il me semble qu'il peut nous faire mal. » Mais Dieu, c'est la même chose, mais encore plus grand, il mesure plus que des mètres, parce que je ne sais pas comment le décrire, mais il est plus grand que tout. Il est plus fort que tout. Puis si on n'a pas, si on ne se rend pas compte d'à quel point il est fort, on n'aura pas cette crainte-là de Dieu, puis on n'aura pas la sagesse. Puis encore là, la crainte de Dieu va plus loin, selon moi, parce que à travers ça, on se rend compte que non seulement il est fort, non seulement il est tout-puissant, non seulement il peut nous faire mal, mais il ne le fait pas. Il nous aime. Il fait tout pour notre bien. Il veut notre bien. Notre bien, c'est de se rapprocher de lui en conséquence. La crainte de l'Éternel, décrit comme ça, on dit souvent comme une crainte respectueuse, que c'est pas une peur de... J'ai peur comme... je sais pas, j'ai pas d'exemple, mais... Une peur qu'on fait juste fuir. Mais c'est une peur qui nous donne ce respect-là, qu'on se rend compte de la force. Puis oui, il y a toujours une certaine crainte parce qu'on sait sa force. Mais en même temps, ça fait qu'on l'aime encore plus. Puis, la crainte de l'Éternel, c'est le fondement de la sagesse. C'est plus que simplement un point de départ. C'est plus que le point A à la sagesse, puis après on peut aller où qu'on veut. C'est le fondement solide qui fait qu'on a beau avoir la plus belle maison au monde, si on n'a pas un fondement solide, tout va s'écrouler. Oui, il y a de la sagesse qui vient d'ailleurs, mais si on n'a pas cette base-là, ça ne donnera rien. Parce que tout va s'écrouler. Puis c'est pour ça que c'est important, la sagesse. J'aimerais ça qu'on revoie juste les points. La crainte de l'Éternel, dans le fond, c'est un peu comme un remède aux limites qu'on a. Que ce soit justement l'inutilité, que ça ne donne rien. Que ce soit l'orgueil. Que ce soit la corruption. La crainte de l'Éternel, c'est toujours le remède. C'est toujours ça qui va nous aider de nous éloigner de la corruption, de ne pas s'enorgueillir. Et finalement, que cette sagesse-là compte pour vrai. La crainte de l'Éternel, c'est le point de départ. C'est le point de départ de l'écoute. C'est le point de départ pour demander à Dieu, de la chercher dans sa parole, de ne pas se fier à nous-mêmes. Parce que si on craint l'Éternel, on va écouter les autres parce qu'on va se rendre compte à quel point on est petit, à quel point on a tout à apprendre des autres. Une fois qu'on voit Dieu, on se rend compte de notre petitesse. Puis si on est petit, on a besoin des autres. On a besoin de demander à Dieu. On a besoin de le chercher dans sa parole. Puis si on se rend compte de qui on est, on va vouloir se rapprocher de lui. On va vouloir justement lui demander, on va vouloir le connaître plus, puis on va lire plus sa parole. Évidemment, on ne se fiera pas à nous-mêmes. La crainte de l'Éternel, c'est la pièce essentielle pour prendre les bonnes décisions. Pour se détourner du mal, savoir diriger, pour savoir gérer son argent. Parce que si on fait juste vivre une bonne vie, il y en a plein qui peuvent vivre une bonne vie. Mais c'est quoi vivre une bonne vie sans, ou faire les lois sans la sagesse, sans la crainte de l'Éternel? Mais c'est du légalisme. On vient comme les autres, qu'on fait juste des bonnes choses pour faire des bonnes choses. Ça ne donnera rien. Savoir diriger. Si on oublie que c'est Dieu le plus important, si on oublie que toutes les choses sont pour Dieu, comment est-ce qu'on va pouvoir diriger avec justesse? Puis l'argent. Je veux dire, c'est quoi la meilleure façon de fructifier notre argent? C'est de la donner pour Dieu. Peu importe où, mais de la donner pour Dieu. De l'investir, cet argent-là. Parce que l'argent va finir par donner quelque chose. C'est le point central de notre espérance. C'est ce qui va nous donner du bien aux autres au final. Puis, dans le fond, ce matin, je veux juste, c'est un appel à la sagesse. C'est un appel à la sagesse qu'on a besoin de tous les jours. J'aimerais ça vous dire ce matin, ah ben toi, dans telle situation, on fait ça, mais la sagesse, c'est plus que ça. La sagesse, c'est plus que dire quoi faire. C'est simplement le faire puis savoir quoi faire. Cherchons la sagesse. Cherchons à connaître Dieu. Et ayons du discernement. Puis c'est là-dessus que j'aimerais vous laisser. Puis n'oublions pas que c'est fou parce que des fois, on manque de sagesse. Hein? Mais crime gloire à Dieu parce que Dieu nous a pardonné tout notre manque de sagesse. Puis si on oublie de revenir à Dieu à chaque fois, on va finir par tellement être découragé de nous-mêmes. Mais Dieu est là. Puis Dieu nous a pardonné. Dieu est mort pour nous. À toutes les fois qu'on a manqué de sagesse, il l'a pardonné. Merci Seigneur, j'aimerais te prier. Mon Dieu, tu sais que je ne suis pas nécessairement l'exemple de la sagesse. Mais je veux te prier que, à travers ta parole, les gens puissent la voir. Les gens puissent la chercher, puissent se rendre compte de l'importance de la sagesse dans nos vies. Éclaire-nous donne-nous cette sagesse-là. Puis que cette sagesse-là soit toujours avec la crainte de Dieu. Que si on oublie cette crainte de Dieu-là, le reste de la sagesse ne donne rien. Que la crainte de toi, Seigneur, c'est ça qui donne vraiment le but, c'est ça qui donne la valeur à cette sagesse-là. Je prie ça au nom de ton Fils. Bénis-nous dans cette journée. Puis vraiment, Seigneur, aide-nous à prendre les bonnes décisions aujourd'hui et demain. Au nom de ton Fils. Amen.